Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez de moi? Moi, je vous écoute avec plaisir. Hein.
Je vous remercie.
Ça me va très bien.
Non, mais au départ, l'idée, c'est de parler de votre peinture.
Ben, c'est pas la peine, il suffit de la voir. Non?
Ah oui?
Bon, oui. Peinture.
Vous venez de parler une heure et demie à un journaliste et vous avez rien dit?
Ben, parce qu'il m'a posé des questions.
Oui. Donc, quand même, vous pouvez en parler. C'est-à-dire que ce qui frappe, oui, c'est l'utilisation, votre ami Guibert parle de la trichromie, la quadrichromie. Il y a une espèce comme ça d'économie pure de la couleur chez vous qui est assez saisissante. Oui, j'appellerais ça un principe d'économie et j'ai l'impression que ça vous est venu très vite, ce principe d'économie.
Oui.
Et comment ça vous est venu, ce principe d'économie?
En regardant, d'abord par la politique d'un côté, l'idée de démocratie, de l'antifascisme. Pas la dictature d'une seule couleur.
D'accord.
D'une part. Tout simplement, quand je recevais les pubs pour les marchands de couleurs,
ouais,
on reçoit des trucs, l'échantillonnage,
oui,
des couleurs. Oh, j'ai dit, tiens, ça, c'est comme mon idée. Elles sont toutes là. Alors, il n'y en a aucune qui est mise en avant par rapport à l'autre. Alors, il y avait ça, et puis les tableaux de Jasper Johns. Et puis l'idée de simplicité, être simple.
Mm.
Tout ça est tellement complexe, si on veut. C'est tellement mystérieux, tout ça, de toute façon. Essayez de trouver des systèmes simples pour parler de tout ça. Envie de parler. Moi, je parle avec les couleurs. Et donc, basique, toutes les couleurs, simplicité, simplifié, plutôt. La découverte, c'est une phrase con. Je crois que c'est Goya qui dit, c'est bête, mais il dit, il faut de la lumière pour les couleurs. Sans lumière, il n'y a pas de... La nuit, il n'y a pas de couleur.
Bien sûr.
Mais c'est une place aussi à la fois primordiale et secondaire par rapport à l'énergie du monde. Quelque chose de supra-tout, par exemple, quand Picasso dit... Alors, toujours de la couleur. Hein. Il dit, quand j'ai plus de rouge, je prends du bleu. C'est formidable. C'est formidable. Et je vous emmerde. Enfin, je sais pas.
Il a dit je vous emmerde?
Non, moi. C'est ça que ça veut dire. Il a pas dit. Peut-être qu'il l'a dit d'ailleurs.
Ça veut dire aussi je suis Picasso. C'est ça derrière quand même aussi.
Non. Ça, oui, enfin, si on veut, peut-être. Ah. Mais il dit exactement, quand j'ai plus de rouge, je prends du bleu. Le bleu fera l'affaire.
Bien sûr.
Ben, c'est une affaire. C'est ça l'important. C'est pas le rouge. C'est pas le bleu. C'est pas le jaune. C'est l'affaire. Il y a une affaire en cours.
Une affaire en cours.
Il y a une affaire en cours. Faut la terminer.
Faut que ça fasse l'affaire.
Faut que ça fasse l'affaire. Le bleu fera l'affaire. Ah oui, mais c'est une chose formidable.
C'est formidable.
J'ai une autre chose avec Picasso.
Ah.
Je l'ai vu une fois.
Ah oui?
Oui. J'étais très ami avec Prévert, avec Jacques Prévert.
Ah oui?
Oui. En 20 ans. Ah oui, on s'appelait tous les matins.
Ah bon?
Et alors, on était en vacances ensemble, toujours. Et il me dit, ah, faut que j'aille emmener Minette, sa fille. Et elle a rendez-vous avec Claude et Paloma, les enfants de Picasso, sur la plage à Antibes. En 57, 58, par là. Bon, d'accord. Oh oui. Et alors, on arrive à la plage. Il y avait une corde. C'est 150 mètres. Picasso, Françoise Gillot, les deux enfants. Puis des gens, regardez, bête sauvage. Bon, là, bonjour, ça. Puis à un moment donné, Jacques et Pablo, ils étaient au bord de la mer, ça, dans leur boxer short, costaud, petit rablé, cigarette au bec, tous les deux, des espèces de petits gabins. Et à un moment donné, Pablo, il a dit à Jacques, t'as compris quelque chose, toi, en regardant la mer? Intéressante. T'as compris quelque chose? Et Jacques lui a dit non. Et Pablo lui a répondu, moi non plus. Oui, mais ça a fait ma vie, ça. Deux génies de l'humanité qui regardent la mer et qui disent je ne comprends rien.
Ouais, ouais, bah c'est génial.
Ah bon, bah, c'est formidable.
Bah oui, bien sûr. Pour en revenir à la peinture, par exemple, à la vôtre, la série Bastille, comment ça vous est venu cette idée de à la fois de prendre un photographe d'abord et puis après de
ah,
peindre.
Les beaux-arts italiens.
Voilà, de peindre les gens en figurines. Comment ça vous est venu cette idée?
D'abord, en 64, j'avais fait un relief qui a été acheté par le musée d'Orléans. Il est au musée d'Orléans. Comme un menuisier, c'est beau ça. Il y a un escalier, il y a une fenêtre, et il y a une femme qui passe en ombre rouge devant. Et ça s'appelle Première ombre au tableau. Alors c'est à la fois l'escalier de Duchamp, la fenêtre de Duchamp, la première ombre, et c'est surtout la naissance de la peinture. Je crois que c'est chez Pline le Jeune. Il raconte un artisan à une fille. Cette fille passe une nuit avec son amant. Son amant, au réveil le matin, après une nuit d'amour, il part à la guerre. Il part à la guerre. Alors elle est encore nue dans le lit. Il se lève, il va vers la sortie. Puis il y a le soleil qui fait son ombre sur le mur derrière elle. Elle regarde. Il va pour partir. Il dit, bouge plus, il dit. Elle prend un morceau de charbon, un charbon de bois, je crois, et elle détourne l'ombre de son âme pour qu'il reste.
Très beau.
Et on appelle ça, son père s'appelle Début, Débuto, Débuti, quelque chose comme ça. Alors on appelle ça le début de l'art, le début de la peinture.
D'accord.
Alors ça commence comme ça. Me souvenant de ça, je fais le premier ombre au tableau. Alors c'était pas ma maîtresse, c'était la femme d'un copain. Et le plus, il datait le tableau parce qu'elle était enceinte. Alors on voit qu'elle est enceinte. Et vraiment, c'est une ombre rouge. Puis alors ensuite, je l'ai repris quelques années après. Ben alors ça vient de 68 alors. Quand on a cru pendant 2 mois que l'homme était bon. L'homme était bon, on l'a cru. Et je dois dire, pendant 1 mois et demi, on n'était pas déçus. C'est génial. L'homme était bon. A pas duré. Ah, la vache. Je les ai fait tous en genre tous ensemble, peut-être qu'on changera les choses. Voilà. Oblitéré, détouré, détourné.
Anonymé.
Anonymé, etc. Tous. Avec un décor de toutes les couleurs.
Voilà.
Ah, pour faire vite. Hein. C'est venu comme ça.
À la fois une position esthétique et politique.
Oui, exact.
C'est ça.
Oui. Là, ensuite, je les individualise.
Ouais.
Ils ont chacun une couleur, ce que nous sommes.
Dans votre parcours, c'est impressionnant cette constance. Il y a une unité, c'est hyper frappant.
Alors justement, ça vient de Picasso aussi.
Ah.
Il a expliqué ça très bien. Un jour, on lui demandait, oui, vous changez tout le temps. Alors, il disait, oui. Oui, je change tout le temps. Oui, je cherche, tout ça. Mais il faut qu'on voit que c'est toujours le même qui parle. C'est ce que vous dites. Vous dites, au fond, on voit que c'est toujours le même qui parle. Alors que les formes changent, les images peuvent changer, etc. Mais il y a quelque chose de constant. Il y a une constante.
Absolument. Voilà. La constante Fromanger, elle pourrait s'appeler.
C'est joli.
La constante C, c'est l'état de la lumière.
Oui.
La constante Fromanger.
Oui, c'est E égale MC2, c'est l'énergie. C'est la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré.
Ouais.
La constante. La constante.
La constante Fromanger.
Oui. C'est marrant. Je vais le noter. Oui, c'est drôle. Je vais vous dire pourquoi. Beaucoup de la constante, je crois. Parce que ça me parle. Le mot me parle. D'abord, c'était Deleuze. Il voulait écrire un bouquin sur moi. Il avait écrit un grand texte.
Ah oui.
Mais avant, puis il est mort.
Ah oui.
Mais il voulait faire un grand livre. Ah oui, oui. Mais il avait écrit un très beau texte qui s'appelait le chaud et le froid, quelque chose comme ça, comme le cru.
Et c'est inédit, ça?
Ah non, c'était la préface d'un catalogue en 1972.
D'accord.
72, oui. Et alors, il avait trouvé le titre, j'aurais à peine dit. Il avait une voix chantante, comme ça. Il disait, allô, Gérard, j'ai trouvé le titre de mon livre. Je dis, ah bon, vas-y, dis-moi. Oh, il est toujours très prudent. Peut-être c'est pas bien, j'en sais rien, enfin, bon, je te le dis quand même. Je dis, ben vas-y, allez. Mais c'était périodisation. C'est pas mal, périodisation. constante. Ah oui, c'est ça, la constante. C'est Einstein. La constante, c'est la vitesse de la lumière.
La constante, c'est... Enfin, ça s'appelle.
La constante C. Non, mais ça, je ne savais pas qu'on l'appelait la constante C.
C'est la constante C avec le C italique, en italique. La constante C.
La constante C. Non, ce n'est pas la constante F.
Voilà.
Voilà. Constante F.
La constante F avec un F majuscule, du coup.
Ah bah non.
Non. Non.
Bah non, comme
un petit F.
Oui. Souvent, je signe avec un petit G. J'aime bien.
Ah oui.
Point G, un petit G en italique, en bas de casse. Voilà, c'est ça.
Oui.
Alors, l'idée de constance serait important. Quelque chose qui est partout la même en tout temps, en tout lieu, quoi, c'est ça. Alors moi, j'ai la constante, c'est la couleur.
Voilà. Constance, c'est et la couleur. J'en vais dire aussi une
la
certaine
vitesse de la couleur,
une certaine identité, sans que ce soit, vous voyez, c'est un terme qui galvaudé aujourd'hui, l'identité, mais.
Ce serait quoi alors votre idée?
Certaines. Bah, c'est vous. Vous dites, c'est toujours le même qui parle.
Bah, oui, voilà.
Vous voyez. Seulement, votre richesse, à la fois d'avoir une espèce d'économie de moyens, j'en parle, et en même temps, vous explorez différentes façons de réussir cette économie en la développant, du coup.
Exact.
Et ça, c'est un beau paradoxe, et ça tient aussi. Comme par exemple, votre très beau tableau où il y a le boulevard, les gens sont à droite, qui sont faits en forme, et à droite, il y a comme un plan.
Un plan, oui, oui. C'est,
vous voyez,
c'est un diptyque.
Voilà, là, c'est extraordinaire.
Oui, c'est ça, alors on sait plus qu'est-ce qui est plan.
Voilà.
Et qu'est-ce qui est homme, et qu'est-ce qui est figure.
Une espèce de fusion de l'urbain et du corps.
Alors l'idée vient d'un truc, c'est que tous les 5 ans, 6 ans, à peu près, grosso modo, ça change, le monde change, tout change.
Oui, tout le temps.
On change tout. Et alors là, par exemple, j'ai une période où je me trouvais dans un labyrinthe.
Ah.
Dans ma tête, c'était labyrinthe. Je ne trouvais plus la sortie. Je rentrais dans la vie et je ne trouvais plus la sortie. Je dis, mais je vais le peindre, puisque c'est ma réalité actuelle.
Ah ben oui, bien sûr.
Je vais le peindre. Alors, je vais essayer de trouver une solution pour exprimer en peinture, pas en journaliste, en historien, en géographe, non, peindre, l'idée que la vie est un labyrinthe.
Absolument.
Et alors, c'est ça.
Absolument.
Les plans, les images, et puis les couleurs partent dans ce, de façon labyrinthique.
Absolument. Voilà, je renchérirais en disant que la vie est un labyrinthe. Et alors, du coup, paradoxalement, au lieu que, comme chez Ariane, le fil sert à montrer où est la sortie, donc il est antérieur, nous, le fil, il est devant.
Voilà.
Ça, on le suit.
Exactement.
Pas pour sortir, mais pour avancer.
Pour avancer.
Ce que je veux dire, dans le labyrinthe.
Exactement.
Parce qu'on n'en sortira pas.
Ariane, c'est dans une autre série qu'il a voulu montrer.
Ah.
C'était, elle est là, tous les petits tableaux avec les fils.
Ah oui.
Sur les fils. Ça, c'est Ariane. C'est
ah vrai. Oui. Si on poursuit votre peinture,
ouais.
Par exemple, on arrive tout au bout avec la série de ce qu'on appelle improprement des migrants, hein, qui sont plutôt des réfugiés. Ouais. C'est un tableau très très coloré qui exprime pourtant une difficulté, enfin une réalité extrêmement tragique.
Oui, mais nous sommes magnifiques.
Oui.
Nous sommes la seule magie du monde. On disparaît, il n'y a plus de monde.
Le monde est magique même sans nous.
Hein. Il s'en fout de nous. Non, il n'est pas magique, il n'est rien.
Le monde est rien ?
Bah, sans nous, sans notre jugement.
Oui,
il est magique,
d'accord.
Parce qu'on... Bah oui.
Oui. Peut-être que les créatures aiment le monde.
Bah, les créatures, c'est quoi les créatures ?
Dans la cité de Dieu, de Saint-Augustin, Saint-Augustin, il dit que si la plante croit, c'est qu'elle le désire, c'est qu'elle l'aime.
Oui, évidemment. Oui, d'accord.
C'est beau.
C'est magnifique.
Bah, c'est très beau.
C'est magnifique.
Et pourquoi pas y aura un désir chez les animaux ou les choses qui vivent ? Un désir de vivre.
Et oui, oui.
Et donc
oui,
un amour.
Bien sûr. Hein? Bien sûr, mais ça c'est le vivant.
C'est le vivant.
Mais les montagnes, les roches, les volcans, les machins, c'est de la vie, mais.
Alors si vous permettez, oui. un mot sur le grand tableau noir avec tous les noms. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ça ?
La mort de mon père. Donc, j'avais rien à foutre. Mais il est mort, ça m'a fait. Je le voyais plus depuis longtemps, mais ça m'a fait. Je sais pas si c'était parce que c'était moi qui étais en première ligne, je sais pas.
Ouais.
Il fallait que j'exorcise ça.
Ouais.
Alors j'ai fait la mort de mes pères.
Ah.
Je les ai fait. Ça s'appelle Nature morte. Parce qu'à l'époque, je reprenais des grands thèmes de l'histoire de l'art. Mais aujourd'hui, c'est quoi une nature morte aujourd'hui ?
Ouais.
Ben, c'est ça. Ça, c'est une nature morte.
D'accord. Ouais.
J'ai fait un immense tableau érotique terrible. Il est au musée Berardo en ce moment, à Lisbonne. terrible.
Pourquoi terrible?
Oh, c'est une saturation de sexe terrible. Quand ma compagne est rentrée dans l'atelier, elle était partie 15 jours. On va se faire virer de Toscane, arrête.
D'accord.
Mais c'était nu, c'est la manière de voir le nu aujourd'hui. Mm. C'était pas le bain turc, c'était pas l'ingre, c'était pas machin, c'était autre chose.
Oui.
Puis j'ai en mémoire deux, trois choses. Une visite à la synagogue de Prague, avec tous les murs couverts des noms, des milliers, dizaines de milliers de noms, des juifs assassinés, etc. Et puis, j'ai souvenir du mur du Vietnam à Washington. Il y a aussi quelques milliers de noms sur un mur noir en blanc. Je dis, tiens, nature morte, si je faisais mon père est mort, je vais faire mes pères, je vais faire une sélection. Alors, il y en a 650 à peu près. Les artistes les plus célèbres de l'histoire de l'art, de l'humanité. Dont les noms sont comme des fleurs. Picasso. Michel-Ange. Van Gogh. Oui. César.
Des noms de Dieu presque.
Oui, oui.
Des noms de Dieu presque.
Mort, comme nous. Ouf. Ouf. Tac. Cache. Ouais. Cache. Virgule. Au suivant. Alors, il y a tout ça mélangé. Puis c'est sur la vanité. En même temps que moi, sans que nous le sachions, ni l'un ni l'autre, Boltanski, Christian Boltanski, on lui demandait de faire quelque chose pour le centenaire de la Biennale de Venise. Et il a pris un immense mur et il a écrit, il l'a fait faire par les étudiants de l'école des Beaux-Arts d'Avignon, je crois, les 12 000 noms des artistes invités et exposés à la Biennale de Venise.
Ah oui.
En 100 ans, c'est-à-dire en 5 ans de Vienne.
Oui, oui, oui. Son nom ça a même été édité, ça. Oui.
Alors moi, j'en avais 660 sur 8 siècles. Lui, il en avait 12 000 sur 100 ans. Mais moi, j'ai fait une sélection monstre parce qu'il y en avait peut-être 2 millions d'artistes sur 8 siècles.
Ouais.
J'en ai sélectionné 660. Alors, sur ces 12 000, et vraiment, hein, j'en connais des peintres. Ah, j'en connaissais peut-être 300, où j'avais entendu parler, ou comme ça, mais tu vois, 3. Il y en avait donc 11 700, des vedettes, des peintres sélectionnés dans leur pays, qui ont eu l'honneur d'être, etc. Sélection féroce. Disparu. 11 700 disparus, inconnus au bataillon. Ça t'en dit long sur la gloire. Oh, oh oui, Et alors le mien, sur les 660, hyper sélection. Alors les 660, c'est des mecs qui ont fait des palais, des villes, des fraises, des églises, des collections formidables, des carrières extraordinaires. C'est des grandes stars, c'est plus beaucoup plus que les 12 000 de Christian. Pareil. Sur les 160. Peut-être 200. C'est même pas sûr. Voilà le tableau, lettre blanche sur fond noir, il vient de tout ça. Il vient de tout ça. À la fin, ça a exorcisé la mort de mon père. Ça m'a calmé. Puis ça m'en a dit long sur la gloire, les vanités, l'ego et tout ça. Et c'est, voilà, c'est une belle nature morte.
Oui, mais enfin, la vanité de quoi? D'avoir voulu faire une œuvre ou d'avoir fait œuvre et que c'est resté?
Faut pas se la péter, quoi.
Non, il ne faut pas se la péter.
Et il faut bien comprendre que le meilleur moment, ce n'est pas la gloire.
Non.
C'est quand on le fait. Tu vois. Et en conclusion, j'ai découvert ça récemment. La passion gagne sur tout. Sur tout. La raison perd. Elle essaye. Elle tente le coup. Elle fout le camp vite.